J'ai eu rapidement eu de la chance de me rapprocher du magasin local qui était l'un des plus gros magasins de Saint-Brieuc à l'époque, Planète Glisse, et donc Olivier, le propriétaire, qui a tout de suite qui m'a pris sous son aile, qui a été super sympa et donc qui m'a fourni du matos en tant qu'un peu ambassadeur rider au début, hein, parce que je me suis vraiment jeté dans le sport à fond. La première année, j'ai fait une fac de sport quelconque, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à la plage à kiter qu'à la fac. Malheureusement, la première année de kite, je me suis fait bien mal à la cheville. Du coup, j'ai eu en fac de sport à l'époque de STAPS, ça a été très compliqué pour moi d'aller jusqu'au bout parce que je pouvais quasiment faire aucune épreuve vraiment sportive, physique. Je crois que j'ai commencé avec Best en 2006, hein. J'ai aidé un petit peu le distributeur français à l'époque, le représentant français, pour la distribution de la marque et la promotion de la marque sur le territoire français, donc faire des démo tours, visiter les magasins. On n'est pas arrivé de l'extérieur, si tu veux, avec un groupe en devant employer un designer qui peut te coûter très cher, des modèles ou un directeur marketing, un directeur commercial avec un réseau de distribution, puisqu'en fait, on était tous dans cette industrie.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Philippe Partin. Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre-Arnaud, bonjour à tous.
Alors on s'appelle depuis un petit peu de loin parce qu'effectivement moi je suis basé à Nantes, toi tu m'appelles de Montpellier, c'est ça?
Exactement, de Pérol plus exactement.
De Pérol, excellent. Philippe, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de commencer par te présenter, s'il te plaît.
Eh bien, écoute, je m'appelle Philippe Martin, j'ai 36 ans, je suis kiteur passionné depuis presque les premières heures du sport. J'ai commencé donc le kite au début des années 2000. Ma vie a toujours tourné autour de ce sport, hein, que ce soit par passion, en tant que sportif au début, et puis j'ai vite pris le tournant pour travailler dans l'industrie du kite. Et puis après quelques années, j'ai voulu avec mes associés créer quelque chose un petit peu pour nous, et donc du coup on a créé une marque de kite. On a commencé doucement au début, et puis ça a grossi avec les années. Voilà, donc aujourd'hui on a créé l'éveil de kite.
C'est canon, et on va en parler effectivement pendant une bonne heure. Peut-être pour reprendre le début, tu parles d'une vingtaine d'années déjà de kite. Qu'est-ce qui te fait découvrir ce sport? Est-ce que tu le vois sur un spot? Est-ce que tu... Enfin, tu vois, c'est quoi le clic, le déclic, pardon?
Le petit élément déclencheur, c'est que j'ai toujours, enfin donc je suis originaire de Bretagne et je passais mes étés là-bas à la plage, hein, comme beaucoup d'enfants originaires de Bretagne. Il y a un peu que ça à faire, un peu de voile, un peu de tout ça, et une famille aussi qui faisait de windsurfer, mon cousin, et on a toujours vu des windsurf donc à la plage. Et puis à la fin des années 90, on a commencé à voir apparaître les premières vraiment les dinosaures du kite, les premières ailes. C'était peut-être en 99-2000. Ça m'avait marqué, mais j'avais pas tout de suite. J'étais encore un peu jeune, j'avais pas tout de suite pris eu de l'engouement pour ça. Et puis ouais, je crois que c'était en 2002. Je suis retourné sur une plage chez moi en Bretagne Nord, au Rosaire, près de Saint-Brieuc, dans la baie. Et là, j'ai vu un jour, je suis arrivé, je suis resté sidéré. Il y avait 20-25 nœuds. Et il y avait à l'époque, il y avait presque personne. Il y avait 2-3 gars qui kitaient là-dedans sur la plage. C'était incroyable. Ils mettaient des sauts, enfin, ils avaient l'air de passer un moment incroyable. Et là, j'ai dit, bah, c'est pas possible. C'est le sport. En fait, si tu veux, le sport a tellement évolué entre la première fois où j'ai vu un kite, ça devait être en 98, 99 et 2002, 2003, 2002, c'était exactement où j'ai vu les gars se mettre des tirs incroyables. Et j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé le kite vraiment en 2002, avec quand même un passé de surfeur à la base et un peu de windsurf.
Ok, donc ouais, tu étais déjà quand même un adepte de le sport de glisse, Mais ça a été un peu la... Est-ce que toi aussi t'as été impressionné, parce que c'est un peu le souvenir que ça me donne à l'époque, moi j'ai commencé plutôt en 2006, d'avoir été impressionné par la taille de l'aile, et donc quand tu vois passer le cerf-volant, notamment quand le mec il marche avec globalement l'aile à 10 heures, d'avoir un énorme cerf-volant, je sais pas si ça t'a fait un peu cette impression aussi.
Ah, si, complètement, parce que surtout qu'en fait, les cerfs-volants à la base c'était des cerfs-volants de traction et c'était des cerfs-volants donc à base de ce qu'on appelle des folk kites en caisson, pas en boudin. Et c'est vrai que le caisson était, les ailes à caisson étaient beaucoup plus petites, c'était des 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres carrés qui tiraient très très fort, qui étaient très vives, très réactives. Et donc, du coup, quand on est passé sur des 12, 14 mètres carrés, donc à cette époque-là, ça paraissait absolument énorme. Mais en réalité, c'était des cailles qui tiraient, certes, mais moins que si tu avais eu des 14 mètres ou des 15 mètres carrés, comme il y avait en caisson des ailes, des voiles de traction. Là, tu te serais fait, ça aurait été intenable. Donc, du coup, ces ailes qui sont passées à boudin, pour surtout avoir une pratique sur la mer, pour éviter que les kites coulent, parce qu'il y a eu certaines des premières ailes de kite, si tu les faisais tomber à l'eau, les voiles à caisson, faut pas oublier que c'était des sous-marins, hein, ça finissait par couler. Et donc, du coup, si tu veux, le fait que ce soit passé des ailes à boudin fait que les ailes ont été moins réactives, plus lentes, alors, et surtout qu'elles dégageaient un fond de puissance, si tu veux, un grunt qui était un peu plus progressif. Et ce fameux fond de puissance dont tu as toujours besoin, qui doit constamment te tirer. Les ailes à caisson, les premières ailes à caisson, c'était vraiment instantané, furtif. Quand ça passait dans la fenêtre, tu te faisais arracher, quoi. Mais tu pouvais difficilement kiter avec ça, quoi. Donc oui, pour répondre à ta question, c'était impressionnant de voir des 12 ou des 14 quand tout le monde était habitué à avoir au début des petites voiles de traction à caisson.
Non mais complètement. D'ailleurs, pour te fournir en matériel en 2002 quand tu commences, on parle de quelles marques, elles viennent d'où?
J'ai rapidement eu de la chance de me rapprocher du magasin local qui était l'un des plus gros magasins de Saint-Brieuc à l'époque, Planète Glisse, et donc Olivier, le propriétaire, qui m'a pris sous son aile, qui a été super sympa et donc qui m'a fourni du matos en tant qu'un peu ambassadeur rider au début, hein, parce que je me suis vraiment jeté dans le sport à fond, et puis tout de suite qui m'a supporté même en prêt de matériel. Comme tous les petits jeunes à l'époque, hein, même aujourd'hui, pardon, mais en tout cas, je passais moi mon temps sur les plages à l'époque. Vraiment, j'étais à la fac et en première année, je regardais les feuilles des arbres bouger au moindre souffle. J'hésitais pas à courir à la plage et à kiter, à faire essayer mon matériel ou à recommander le magasin. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu, si tu veux, à me fournir en matériel. Ma première voile, c'était les toutes premières scoops de chez Takoun.
C'est énorme.
Voilà.
Et alors du coup, pendant toute cette période-là, du coup 2002, etc., t'es encore au lycée ou t'es en début d'études peut-être?
Tout juste. Je commence le kite l'été où je passe à la fac en fait. Donc c'est, enfin le printemps. Il me semble que j'ai dû commencer au mois de mars, avril. Juste avant mon bac, et je suis passé à la fac juste le mois de septembre l'année d'après, enfin la même année.
Et alors tu fais ça du coup, t'es à la fac où peut-être pour
À Saint-Brieux. Saint-Brieux, dans les Côtes d'Armor. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais comme étude à côté, tu vois, pour être aussi passionné? Est-ce que tu y consacres beaucoup de temps ou est-ce que tu te dis c'est mon hobby du week-end et en semaine je suis quand même en train de me concentrer sur un futur métier?
Non, au début, tout a été un peu flou, un peu compliqué. Je voulais être dans le sport, bien sûr, évidemment, dans le kite. Hein, ça, j'ai toujours, enfin, à partir du moment où j'ai eu une aile de kite dans les mains, j'ai su que soit je voulais donner des cours, soit je voulais faire quelque chose dans le kite. C'était ma passion, donc pour moi, c'était clair que j'allais faire quelque chose dans le kite. La première année, j'ai fait une fac de sport quelconque, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à la plage à kiter qu'à la fac. Malheureusement, la première année de kite, je me suis fait bien mal à la cheville. Du coup, j'ai eu en fac de sport à l'époque de STAPS, ça a été très compliqué pour moi d'aller jusqu'au bout parce que je pouvais quasiment faire aucune épreuve vraiment sportive, physique. Et donc, du coup, cette année-là, j'en ai vraiment profité donc déjà pour réparer ma blessure. Que je m'étais faite presque au tout début du kite. Et après, prendre un peu plus de temps, j'ai un peu voyagé, je suis parti en Martinique, j'ai passé un monitorat fédéral de voile, et puis j'ai surtout après beaucoup kité, et là je me suis dit non, la fac de sport en fait c'est pas du tout pour moi, c'était vraiment freestyle entre guillemets si je puis dire, et puis c'était l'année aussi des grèves, enfin c'était assez compliqué, je voyais aucun futur là-dedans, en tout cas pour moi, hein, personnellement, hein, parce que j'avais pas du tout le profil si tu veux à faire une fac de sport. Et vu que j'aime bien le commerce aussi, le contact avec les gens, je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose de plus commercial. Et c'est là où je me suis redirigé vers un IUT à l'époque, donc Tech de Co, toujours à Saint-Brieuc. Et c'est vraiment à partir de cette année-là, donc à la rentrée suivante, que j'ai vraiment trouvé ma voie, le commerce, et le commerce notamment dans les sports de glisse dans ce cas-là.
Ok. Et donc tu fais ça, du coup, effectivement, tu me disais, dès que tu avais un trou, tu vas là, dans ton emploi du temps, finalement, tu vas à la plage. Et tu kites, tu embarques des potes. Est-ce que déjà à l'époque tu es en train de motiver des potes et tu as une communauté qui te suit ou que tu commences à développer, d'avoir comme tu avais peut-être avec le surf en particulier ou le windsurf, des potes que tu emmènes et que tu motives à te suivre?
Ouais, complètement. C'était ce qui était incroyable dans ces années-là, au début des années 2000, donc 2003-2004, c'est que le sport était quand même très peu démocratisé. Je dis pas que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, c'est juste un constat, hein. Et si tu veux, il y avait tellement peu de personnes à kiter qu'à chaque fois que tu arrivais à la plage ou que tu étais un peu loin sur la route et que tu voyais des ailes de kite, c'était forcément des copains à toi sur le spot. Tout le monde c'était vraiment un tout petit monde, tout le monde se connaissait, et donc bien sûr on échangeait nos numéros de téléphone tout de suite. C'était chacun se donnait un peu des conseils, tout était un peu, tu sais, un petit peu pas sûr au niveau des conditions, au niveau du matériel. Donc quand on avait un qui savait un peu mieux que l'autre, il donnait ses conseils. C'était vraiment, il y avait une grosse émulation, beaucoup d'entraide. C'est normal, après le sport s'est démocratisé. Aujourd'hui tu arrives sur une plage, tu as 70 kiteurs, tu vas pas voir tout le monde. Mais tu arrives sur une plage, tu as trois kiteurs, évidemment tu commences à parler. Donc c'était vraiment une ambiance complètement différente. Du matériel beaucoup moins abouti aussi, je pense que c'est pour ça qu'on aimait bien se donner des conseils, et puis beaucoup moins d'expérience d'une manière globale. Et donc après, bien sûr, on était une petite communauté et on se donnait tous rendez-vous pour kiter. C'était vraiment vraiment sympa. J'ai des très bons souvenirs des débuts du kite.
On parle de Montpellier là, effectivement, à date où tu es installé. T'étais à, oui, Saint-Brieuc pendant un certain temps. Oui. Le clic se fait le déplacement se fait au moment où tu monte le projet entrepreneurial, ou est-ce que déjà à l'époque tu avais repéré que Montpellier, en l'occurrence Bandol, était un bon spot pour le kite?
Pérol, ouais. Alors,
Pérol.
Mais Bandol est un très bon spot pour le surf et la wing maintenant, le kite un peu moins, je crois. Non, j'ai une vie un peu plus particulière que ça, en fait. J'ai pas fait un changement radical entre la Bretagne et le sud de la France. Il faut savoir d'abord que j'ai habité quelques années à Nice quand j'étais jeune, mais comme une bonne grosse partie de ma famille d'origine bretonne. On est remonté en Bretagne assez rapidement. J'y suis resté en Bretagne jusqu'en 2006, donc jusqu'à la fin de mon DUT. Après, je suis parti, j'ai fait un master à La Rochelle, un IAE, et en marketing. Et après, je suis parti vivre en Espagne 4 ans. Voilà. Et j'ai travaillé là-bas aussi. Donc j'ai été un petit peu à la fac, en Erasmus, à Cadix notamment. Il n'y a pas de hasard, pour être plus près de Tarifa, m'entraîner. Pendant toutes ces années, j'ai aussi fait un peu de compétition. Un peu de championnat de France, quelques étapes du KPWT qui était le tour mondial, l'un des deux tours mondiales. Et donc je vadrouillais. Alors j'avais, par rapport à certains qui avaient vraiment décidé de faire une carrière en haut niveau et de consacrer tout leur temps, pour moi c'était beaucoup plus compliqué parce que je devais alterner entre mes études, entre le sport et un peu de compétition. Et c'était pas facile de me dégager du temps, hein. Donc clairement j'ai fait ça plus pour le plaisir de faire quelques compétitions, de voir le niveau évoluer, de retrouver tous mes copains sur les compétitions, de passer du bon temps. Voilà. Après, je suis remonté à Barcelone. J'ai notamment travaillé quelques années pour une grosse marque de kite là-bas. Presque 10 ans au total. Même plus que 10 ans. 13 ans ou 12 ans. Et puis, on a pris l'expérience. J'ai rencontré plein de monde. J'ai énormément voyagé pour le travail. Il y a plein d'idées qui me sont venues, et puis voilà, après tu connais la suite qui en découle.
Alors peut-être on revient sur cette partie de donc Cadix à l'époque dans le sud,
oui.
D'Espagne pardon. Tu disais que tu avais effectivement ce choix de ne pas pousser le modèle assez loin en compétition. Est-ce que c'est parce qu'il y avait d'autres qui étaient très loin devant meilleurs, ou est-ce que c'est effectivement par ces choix de cumuler plusieurs emplois du temps qui faisait que tu as préféré garder la voie commerce, en tout cas comme la suite de ta carrière?
Non, alors déjà j'avais clairement pas le niveau par rapport aux meilleurs, ça c'est évident. J'étais un bon kiter si tu veux, mais j'étais loin d'être doué comme certains. Donc du coup, ça je l'ai senti tout de suite. Je suis pas non plus un grand compétiteur dans l'âme. J'aime plus le freeride, donc j'ai pas du tout poussé dans la compétition. Et puis j'ai toujours la chose un peu bateau standard entendu, que ce soit dans tous les sports, mes proches ou des copains dire le sport c'est bien, mais arrivé à un certain âge, de toute façon tu seras démoli, tu seras fatigué et il faudra que tu penses à ton après carrière. Et déjà à l'époque, on savait que les carrières de kiteurs, ça s'arrêtait très très tôt, vraiment beaucoup plus tôt que dans beaucoup d'autres sports. Donc je me suis dit, c'est pas maintenant qu'il faut que je perde du temps. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me passionne pour les prochaines années, pour durer dans le temps, parce que le kite c'est vraiment éphémère en tant que sportif de haut niveau. Voilà. Donc j'ai tout de suite su que je ne ferais pas, que je voulais pas pousser le bouchon plus loin. Et je me suis vraiment posé la question arrivant en licence. Je me souviendrai tout le temps, arrivé entre mon DUT et ma licence. Au début de ma licence, je me suis dit, je vais tout arrêter, je vais me remettre à fond, essayer de voyager, de m'entraîner. Et puis, au dernier moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ne fais pas cette erreur. Essaie de continuer le plus possible à avoir cette un peu double vie de, entre guillemets, kiteur, et continuer d'étudier pour te préparer un futur.
Et alors, du coup, tu arrives à Barcelone. Oui. Est-ce que c'est toi qui te fais repérer par la marque ou est-ce que c'est toi qui repères le magasin et tu te proposes volontairement de les rejoindre
Non, alors en fait, j'étais déjà sponsorisé par la marque depuis 2 ou 3 ans. Et donc, c'est comme
ça. Si tu veux.
Oui, c'était Best Kiteboarding. Et donc, du coup, je connaissais très bien la marque, ils me connaissaient parce que j'étais rider, hein, team rider pour eux. Et donc, du coup, tout s'est fait un peu naturellement. J'ai cherché un stage de fin d'études. J'ai fait d'ailleurs 2 stages chez eux de fin d'études en IAE, en master. Et bon, quand j'ai commencé là-bas, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai tout simplement suivi et continué et puis été embauché derrière.
Donc, tu rejoins Best. Tu dis que tu passes 12 ans à travailler pour eux.
Presque, ouais. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai aussi commencé un petit peu avant pour eux, en France, avec le distributeur français, à donner des coups de main, à travailler un petit peu pour eux. Donc, j'ai vraiment, voilà, je crois que j'ai commencé avec Best en 2006, hein, quelque chose comme ça.
Et alors, du coup, tu commences et tu fais quoi? Tu rejoins Best et qu'est-ce que tu fais comme métier, du coup, dans une boîte comme ça?
Eh ben, je travaillais, j'ai aidé un petit peu le distributeur français à l'époque, le représentant français, pour la distribution de la marque et la promotion de la marque sur le territoire français. Donc, faire des démo tours, visiter les magasins, en alternance avec mes études. Donc, c'est pour ça que je te disais que j'ai toujours eu un pied dans le kite depuis les débuts.
Et alors, du coup, c'était une casquette double commerciale logistique, on est d'accord, puisque tu...
Ouais, surtout commercial, c'est ça. Surtout commercial, promotion, marketing, faire connaître les produits.
Et alors, du coup, tu dis passer pas mal d'années avec eux, effectivement. Qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi, dans le matériel? Est-ce que tu la notes, j'imagine, en tant qu'utilisateur? Est-ce que le discours est différent aussi, après, en tant que vendeur? Je ne me rends pas compte.
Bien sûr, bien sûr. Il y a eu plusieurs grandes, entre guillemets, évolutions dans le kite. Moi, je vais plus appeler ça des concepts de rupture, comme on dit vraiment dans le jargon. Les premières ailes de kite dont on en a parlé, c'était des ailes sans dépower, sans bordée choquée. Voilà, donc là, c'était vraiment anecdotique, hein. Je sais pas s'il y avait 15-20 kiteurs en France, c'était un maximum. Après, on est passé à des ailes à boudin avec un tout petit... Alors d'abord, les 4 lignes, enfin les lignes bloquées, c'était encore très physique, c'était fermé au grand public. Et là où ça commençait à vraiment se démocratiser, donc un vrai concept de rupture, ça a été l'aile gonflable un petit peu en C avec un bordé choqué où tu pouvais un petit peu mieux gérer ta puissance. Là, c'est là où ça commençait. Moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, à ces débuts-là. C'est là où ça commençait à se démocratiser un petit peu. Ça, c'était je m'en souviendrai très bien, c'était jusqu'en 2005, jusqu'à la moitié de l'année 2005. Et à la moitié de l'année 2005, il y a eu l'arrivée de l'aile, ce qu'on dit en beau, donc l'aile un peu plate, avec des poulies notamment, les premiers modèles. Et là, on est passé sur une aile qui, à l'époque, soi-disant, avait 100% de dépower, hein, mais en tout cas, qui pouvait vraiment perdre de sa puissance. Et c'est là que ça a été incroyable. Ça a permis au sport de se démocratiser, d'exploser. Et en l'occurrence, il y a eu un boom des kitesurfers entre 2006 et 2012. C'est là où les spots ont commencé à se remplir, les magasins à profusion. Et voilà, ça, ça, Il y a eu beaucoup de monde jusqu'en 2012. Après, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une petite stagnation au niveau de la pratique de 2012 à 2016-17, voire un léger déclin. Et depuis 2018-2019, le sport est reparti. Et incroyablement, de ce qu'on le peut penser, si on n'est pas dans cette industrie, le Covid a fait exploser le nombre de pratiquants. Alors, je pense que voilà, l'humain qui veut, qui en profite ou qui veut en profiter après des périodes comme ça, se réfugier dans le loisir. Bon, clairement, le skate est un sport individuel, de plein air, donc beaucoup moins de risques d'attraper le Covid. Pas d'interdiction l'été ou le printemps-été, en tout cas par rapport au sport d'hiver, où si t'as pas une remontée mécanique, ben tu peux même pas faire de ski. Là, c'est du sport individuel et donc il y a ça. Et puis en plus, l'arrivée de la wing, donc personne n'attendait, ça a été une vitesse folle. Et tout s'accumuler fait que là, depuis un an et demi, c'est la folie, quoi. L'industrie du kite, nous, enfin, les marques, on n'arrive même plus à suivre la demande, si tu veux. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et il y a beaucoup d'inertie, c'est très compliqué pour nous de fournir le marché, que ce soit en matériel de kite ou en matériel de wing.
Et alors là, on parle de best, effectivement, toute cette période-là, jusqu'à 2018, grosso modo. C'est à
Oh
2018 que
non,
tu.
jusqu'à 2016. On a commencé à créer la marque fin 2016, début 2017.
Et alors, pareil, question, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui te fait dire il faut que tu fasses différemment ou faut que tu innoves par rapport à ce qui était ton employeur?
Je pense que c'est un peu dans la nature humaine de vouloir faire quelque chose aussi pour toi. Et bon, il y a eu, à part des petits soucis en interne, au bout d'un moment, on était un petit peu épuisé certaines choses, on était un bon groupe de copains en interne et on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de faire à notre sauce, voilà, parce que on avait tous quand même pas mal d'expérience, on savait ce qui allait et ce qui allait pas, et c'est comme ça qu'un jour on s'est réunis, on s'est dit allez, on fait notre chemin, on le tente, c'est risqué, mais au final qui tente rien n'a rien, donc on a pris notre courage à deux mains et on s'est dit essayons, voilà, et on a essayé.
Comment tu trouves les financements du coup pour ce genre de choses? Parce qu'il y a un peu de R&D finalement enfin même beaucoup de R&D sur le développement des ailes. Comment tu commences quoi? Est-ce que tu copies une première aile d'une autre marque et tu te lances dessus? Comment ça s'est passé?
On n'est pas arrivé de l'extérieur, si tu veux, avec un groupe en devant employer un designer qui peut te coûter très cher, des modèles ou un directeur marketing, un directeur commercial avec un réseau de distribution, puisqu'en fait les associés, nous qui avons créé Elevate et les personnes qu'on a débauchées, on était tous dans cette industrie. Donc le designer, c'était sa marque aussi. Donc si tu veux, il n'y a pas eu de besoin de financement interne particulièrement important pour la marque parce que c'était nous en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça n'a pas été compliqué à trouver ni à créer à ce niveau-là. En tout cas, pas au niveau vraiment financement. Ce qu'il faut clairement aujourd'hui, de toute façon, pour monter une marque de kite et entre guillemets réussir, c'est déjà savoir faire des ailes, de la performance et de la qualité. Nous, on a eu la chance d'avoir accès à vraiment la meilleure usine de conception des kites.
C'était où? Elle est où d'ailleurs physiquement cette
Elle est au
usine?
Sri Lanka. Elle est au Sri Lanka. Et surtout, aussi très important, c'est le deuxième facteur très important, c'est d'avoir un réseau de distribution. Si t'as pas de réseau de distribution, c'est difficile de décoller, très difficile. Voilà. Et nous, on avait un réseau de distribution aussi, grâce au passé, à l'historique qu'on avait. Donc on avait, si tu veux, déjà la confiance des gens, que ce soit au niveau des kites, de la qualité des kites ou de la performance des kites, parce qu'ils connaissaient le designer, le nom du designer, et on avait aussi voilà, le réseau qui croyait en nous, parce que on a bossé 12 ans, 11 ans avec eux, et ils ont vu qu'on a été capable de faire du bon taf pendant toutes ces années, du bon boulot.
Tu parles d'un nom de designer, effectivement, qui permet de pousser la marque. On peut le citer peut-être éventuellement?
Bien sûr, bah, du coup c'est mon associé Peter Stew, qui a commencé donc du coup le design. Lui il est plus âgé que moi, hein, mais il a toujours fait beaucoup de bateaux. Il faisait même ses voiles d'optimiste lui-même à l'époque. Et donc du coup il a toujours dessiné un peu ses voiles de windsurf, ses voiles d'optimiste. Par contre, il a été dans le milieu du kite depuis bien avant moi, hein, depuis presque bah, les tout débuts du kite dont on parlait tout à l'heure, dans les années 98. Et il a créé une marque de kite même à l'époque à Cabaret avant même que Best existe, il a toujours dessiné des kites, designé des kites, développé des kites. Et c'est marrant l'autre jour parce qu'on essayait de compter un petit peu, on parlait de notre historique à tous et effectivement il me disait ouais, il a fait quand même pas loin de 2200 prototypes dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a dessiné, conçu, enfin fait concevoir aux usines des prototypes, hein, il les a pas cousus lui-même bien sûr, et fait voler et essayer et approuver 2200 ailes de kite au total. Donc ça commence à faire, si tu veux, du boulot et voilà, et c'est là donc je te dis où l'expérience rentre en jeu et le background est super important. Parce que tu te, après autant d'expérience, tu te fais plus piéger par des petites erreurs que tu pourrais faire en débutant. Moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Peter, c'est cette capacité à mentaliser le design, l'aérodynamisme et les performances de vol d'un kite avant même de le faire. Et quand on part d'une page blanche pour faire un nouveau produit, tous les 2-3 ans, on repart sur un nouveau produit complètement nouveau, un nouveau shape. On prend à zéro. Ça demande beaucoup de travail. Mais on établit un cahier des charges, on en discute, on sait exactement ce qu'on va faire, dans quelle direction on va aller. Et avant même de commencer, je sais que Peter, il a bien le droit dans sa tête, je sais exactement ce qu'il va faire. Ce qui est incroyable, c'est que des fois même du premier coup, mais deuxième, troisième proto qu'on fait, le kite, il répond exactement aux attentes et il vole incroyablement bien. Là où, je sais pas, quelqu'un peut-être sans expérience devrait y passer 10 fois plus de temps. Donc, c'est vraiment ce que tu me posais la question tout à l'heure, c'est ça aussi qui nous permet d'avancer et d'aller vite, hein. Aujourd'hui, au bout de, là, on entame notre 5e année, donc, on a quand même une gamme de 6 voiles de kite différents, on a 3 wings différentes, donc on commence à avoir un catalogue, une profondeur de produits qui est importante. Bon, voilà. Après, on fait un volume conséquent quand même, donc c'est normal qu'on fasse cette profondeur de gamme.
Donc, tu commences en 2016. T'es encore employé à côté?
Non.
Vous décidez de tout arrêter?
Ouais, on arrête tout complètement, bien sûr. On pouvait pas se permettre de jouer sur les deux tableaux.
Et alors, vous mettez combien de temps à sortir votre première aile, tu vois, sur 2016? Est-ce que c'est tout de suite en quelques semaines? Est-ce que c'est, il a fallu plusieurs itérations?
Non, parce que il y a quand même un peu d'inertie, donc on peut pas faire ça du jour au lendemain. Il nous a fallu quelques mois pour préparer, pour tout préparer, pour préparer les designs, pour préparer la communication, le site internet, l'équipe, faire les plans qui soient marketing, stratégique, un peu opérationnel et commerciaux. Donc il nous a fallu quelques mois, mais on est allé assez vite, encore une fois, parce que l'expérience nous a permis de passer quelques étapes plus rapidement que si on était parti, si tu veux, à zéro. Si on avait été un groupe d'amis qui n'avait jamais travaillé dans l'industrie avant, qui serait dit tiens, on va lancer une marque de kite, si tu veux, je pense que en ouvrant chacune des boîtes, on aurait eu plein de petites surprises. Et là, effectivement, on savait quand même quels étaient les pièges et les erreurs à éviter depuis le début. C'est ce qui nous a vraiment permis de gagner du temps. On a clairement gagné énormément de temps, et tout ça dû encore une fois à une chose, c'est à l'expérience, tout simplement.
Mais excusez.
Comme beaucoup de métiers, hein, enfin comme beaucoup de choses. Voilà, si demain tu me demandes de monter un site internet d'hébergement ou quoi que ce soit, on est absolument novice et on serait incapable de le faire. On mettrait 10 fois plus de temps qu'un développeur ou quelqu'un qui a déjà bossé dans une boîte et qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Voilà.
Et est-ce que du coup, typiquement, tu vas être le genre de personne qui va, enfin, non, je refais ma question. Est-ce que vous avez fait un choix de shape en particulier dès la première année? Est-ce que vous aviez déjà en tête que vous vouliez arriver sur le format avec poulie qui se bouge comme ça, ou rester plutôt sur un C-shape? Enfin, tu vois, c'était quoi la logique?
Non, encore une fois, on était dans le milieu, on était dans le marché, donc on avait connaissance de la demande, on avait connaissance de l'attente, ce qu'attendaient les gens, les consommateurs, les kiteurs. Donc, tout naturellement, on a suivi, si tu veux, cette attente, on a suivi le travail qu'on faisait avant, on a suivi le marché. Donc, pour nous, c'était clair, on avait des ailes un peu typées freestyle. Au début, on a commencé avec 3 ailes, aile typée freestyle, aile typée freeride crossover pour tout le monde, et une aile typée un peu plus vague pour drifter. Voilà. Après, le sport, c'est incroyable, le sport évolue constamment. Donc, ces 5 dernières années, depuis que l'éveil a commencé, on a créé ensuite, on avait fait en parallèle une aile PS pour les écoles. Et puis après, on a fait une aile de Lightwing, la OS, un One Strut, beaucoup plus légère. Et puis, le Big Air s'est absolument démocratisé ces dernières années. Donc, on a lancé un kite de Big Air, la XS. Donc, voilà, en fait, nous, ni plus ni moins, en fait, en tant que marque, on est là pour suivre la demande du marché, la demande des clients et essayer de les satisfaire le plus possible. C'est aussi facile que ça.
Comment vous trouvez les noms? C'est quoi la logique dans les nominations? Parce qu'on a entendu tous parler de bandites, de noms qui peut-être nous ont marqué parce qu'il y a eu la 1, la 2, la 3, la 4. C'était quoi votre choix, vous, dans la nomenclature?
Nous, c'était d'avoir une gamme le plus identifiable possible et le plus facile possible. Et pour ça, alors j'ai pas cité de nom de concurrents particulièrement, je sais pas si je peux ou si je suis autorisé, mais c'est vrai que quand tu as 6 modèles de kite, quand les kiteurs parlent entre eux à la plage, si tu donnes des noms, je sais pas, genre Neo Evo ou chez d'autres marques, je sais pas, la Bandit, la Bully, quoi. Au bout d'un moment, si tu veux, tu te perds un peu, tu te dis, mais attends, la Neo, c'est laquelle? C'est elle pour les vagues ou c'est l'aide débutante et la Evo? Et enfin, tu vois, alors, c'est des, moi, je critique pas du tout ces choix, hein. C'est une choix, une stratégie en interne. Puis les noms sont très bien. Nous, on a fait un peu différemment. On a fait, tous nos noms finissent par S, comme series. Par contre, la lettre qu'on a mis devant, en fait, correspond à la pratique du kite. Donc, les FS, c'est comme les freestyle series. Les WS, c'est comme les wave series. Les XS, c'est extreme pour le big air. OS, one strut, one series. Voilà, à chaque fois, la lettre de devant, en fait, permettait d'identifier rapidement un produit sans essayer de se perdre. Donc, on essaie de communiquer là-dessus pour que les gens puissent, que les kiteurs puissent facilement identifier et reconnaître un kite. C'était ça un peu la stratégie pour trouver les noms de nos produits. Mais c'est un peu pareil avec les planches. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais Ignition, c'est la planche vraiment débutante. Après Process, on avance dans le sport. Après la Master, on est déjà un peu plus master dans le sport. Et la Commander, qui est la board ultime de freestyle, wake style, c'est la planche ben, voilà, qui permet un commander, quoi. Donc voilà, tout suit un peu une logique de progression dans les produits.
Et du coup, on identifie entre le nom et l'année, c'est ça? On dit c'est la XS de 2020, c'est la...
Non, on parle plutôt en version. Aujourd'hui, les millésimes, c'est hyper compliqué. Hein. Les années, tout est devenu... les sorties sont décalées, donc on peut plus vraiment donner des années, des RS 2019, 2020, 2021. On parle en termes de version. Donc RS, là, cette année, par exemple, on va arriver sur la RS V5, parce que c'est la cinquième année, la cinquième génération d'RS. La XS, c'est la XS V2, c'est la deuxième génération de XS. Voilà, on parle aujourd'hui, on va parler comme ça, beaucoup plus.
Ok, donc tout est fabriqué là-bas. C'est quoi si on peut remettre un peu une timeline entre j'ai une idée, ou en tout cas je veux développer une nouvelle version, et je commence à la commercialiser. Il se passe combien de temps entre les deux?
2 ans.
Ok, donc c'est vraiment un long process d'itération.
18 mois, ouais, c'est très long. C'est très long parce que il faut essayer, prototyper, faire plusieurs prototypes, faire surtout pas qu'une taille, mais 7 tailles, valider, approuver 7 tailles. Et puis il y a aussi la commande de la matière première, du SPI, du canopy, du dacron, de tous les différents matériaux. C'est très long. Hein. On n'est pas du tout en flux tendu. Nous, on est sur des forecasts. Les marques de kite, il faut comprendre qu'on est sur des forecasts aujourd'hui à 16-17 mois. C'est-à-dire que c'est plus d'un an à l'avance où il faut... qu'on donne nos besoins, nos capacités de production, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors là, le Covid a tout chamboulé parce que ça a rallongé les délais d'une manière encore plus importante que ce que ça l'était avant. Donc c'est un vrai casse-tête logistique. De l'extérieur, ça peut paraître assez facile, mais en interne, c'est un casse-tête chinois.
Et alors, en termes d'échéancier, enfin, tu me parlais effectivement de 18 mois. Donc là, en ce moment, vous préparez déjà les versions de l'année prochaine?
Ah, mais complètement. Même plus que ça. On a, là, les ailes sont en train d'arriver, d'être livrées en magasin. On est au mois de mai. Nous, ça fait déjà 3 mois qu'on a choisi les couleurs, les quantités, les volumes dont on a besoin, les couleurs et les matériaux. Et aussi réserver nos capacités de production dans les usines pour je pense qu'au mois de 2021, on doit parler de booker nos slots jusqu'à novembre 2022 aujourd'hui. Là, je suis en train de booker pour novembre 2022.
Ah la vache. Et t'arrives à faire livrer du coup sur des périodes tous les ans au même moment? Toi, est-ce que c'est tous les ans en mai par exemple, ou est-ce que ça change du coup?
Non, ça change un petit peu d'une année à l'autre. Ça varie de quelques mois en fonction des volumes, en fonction du nombre de kites qu'on peut produire, en fonction de plein de choses. Mais en général, oui, on arrive toujours avec la nouvelle collection aux alentours de mars-avril. C'est étalé entre mars, avril et mai et juin. Aujourd'hui, si tu veux, quand tu fais 6 modèles et le volume qu'on fait, on peut plus. C'est mathématiquement et techniquement impossible d'avoir autant de kites dans tant de tailles différentes, dans tant de modèles différents, prêts au 1er avril. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, des kites qu'on commercialise au mois de mai, c'est des kites qui sont par exemple en production déjà depuis le mois de janvier, puisqu'il faut il faut 1 mois et demi, 2 mois pour faire une chaîne de prod d'un produit. Après, tu les mets dans un bateau. Enfin. Il se passe des mois entre le moment où le kite est commencé à être produit et le moment où il arrive dans le magasin.
Alors du coup, tu me confirmes avec ça que l'usine ne vous appartient pas. On est sur un prestataire de
Tout
travail,
à
du
fait.
coup. Ouais.
C'est ça pour la grande majorité des marques de kite, presque pour tout le monde d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est un choix que vous allez envisager à un moment donné d'avoir votre propre usine ou pas?
Non, ce qu'on appelle l'intégration verticale, pas du tout. C'est pas du tout. C'est trop. Les usines, si tu veux, qui produisent des kites aujourd'hui, c'est des grosses usines qui font pas que pour une marque, qui font pour plusieurs marques réunies. C'est des usines qui ont beaucoup d'expérience. Nous, Aquadynamics, ça fait 35 ans que ça existe. Il y a plusieurs milliers d'employés. Nous, les marques de kites, faut voir qu'on est quand même des petites structures. Tu vois, nous, on est quoi? On est 20, 20, 22, 23 chez l'éveil. Je pense que les plus grosses marques de la concurrence, je sais pas combien ils sont, peut-être vraiment en interne, à travailler pour la marque. Hein, je parle pas après de tout le réseau qui va autour. Il y a beaucoup plus de monde, pareil chez nous. Mais ils sont peut-être, je sais pas, 70, 60. Juste pour donner un ordre d'idée, peut-être une usine comme là où nous on est, c'est pas loin de 2000 employés. Enfin, c'est un monde différent. Nous, on peut pas se passer de gérer 25 personnes à passer de gérer 2000 personnes, des machines, c'est un travail différent. Nous, on sait, si tu veux, nous, on sait, on connaît comment évoluent les matériaux, on sait les choisir, on sait faire un design, on sait faire une aile qui vole, une aile performante, ça, c'est notre travail à nous. Le travail de l'usine, c'est de savoir l'assembler, la construire d'une meilleure manière possible. Voilà. Et on pourrait pas se permettre d'avoir une autre usine à nous.
Je vais me permettre une question un peu osée, et surtout que c'est un sujet effectivement qui est assez d'actualité. On va parler un peu de matériaux en particulier et ce que ça peut impacter sur l'environnement. Est-ce que il y a une partie de R&D aussi que vous faites sur le fait que certains de ces matériaux, dans le temps, puissent être soit réutilisés, soit recyclés, soit, enfin, comment ça se passe sur la durée de vie d'une aile auprès d'un particulier?
Bien sûr, je crois que l'écologie aujourd'hui, il faut être absolument aveugle pour pas s'en inquiéter et on est les premiers, on est hyper hyper concernés par ça, hyper responsables. Nous, en tout cas, en interne chez Elevate, on va pas se voiler la face. On va pas, c'est pas, faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je vais pas raconter n'importe quoi. Est-ce que c'est un sport qui pollue? Évidemment, c'est un sport qui pollue. Les ailes sont faites à base de pétrole, hein, d'uréthane, de résine polyester, tout ça, c'est de l'industrie chimique et c'est du pétrole à la base. Mais c'est ça pour l'intégralité de toutes les façons des produits qu'on utilise à peu près au quotidien. Après, nous, bien sûr, comment on peut réduire l'empreinte carbone? Comment on s'inquiète, en tout cas, nous, en interne chez Elevate, de tout ça? On fait plein de choses pour ça. Le kite en lui-même aujourd'hui, oui, on veut travailler sur des matériaux qui soient recyclables. Aujourd'hui, on peut pas techniquement se permettre de le faire d'une année sur l'autre. Ça demande des années de développement de nouveaux matériaux. C'est comme si tu me disais pourquoi Boeing ils font pas voler des avions électriques demain matin. Enfin, c'est parce que tu peux pas le faire du jour au lendemain. Il faut des années, mais on y pense. Après, nous, bien sûr, on éradique le plastique le plus possible. On utilise des cartons recyclés. On a aussi, depuis même avant le Covid, essayé de faire le plus possible de télétravail avec tout le monde. Ça a l'air stupide, mais ben, des salariés qui prennent leur voiture tous les matins pour brûler du CO2, pas forcément nécessairement, ben, ça a un impact sur la qualité de vie des gens aussi. C'est beaucoup plus sympa voilà, de pouvoir faire ton propre planning, de t'organiser comme tu veux, de travailler à distance. D'ailleurs, on l'avait fait bien avant le Covid et on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup moins souffert en termes structurels. En termes d'organisation, parce que les gens étaient déjà habitués à ça. Pareil, on essaie de ne pas surproduire, et ça c'est vraiment important à dire, parce qu'il y a eu des années où le marché du kite, il y avait des kites à profusion, à ne plus savoir quoi en faire, de la suroffre. Aujourd'hui, on fait vraiment le minimum. D'ailleurs, on est toujours en manque de produits en fin de saison pour éviter de surproduire. On met plein de petites actions comme ça en place au quotidien. Pareil, on essaie de calculer en interne un petit peu ce qui va faire le moins d'empreinte carbone en fonction de savoir si on utilise tel ou tel transporteur, si on utilise un bateau, un avion. Donc tout ça, on travaille pas mal dessus en interne. Après, oui, un kite, que tu prends n'importe quel kite de n'importe quelle marque, voilà, ça pollue. Mais le sport pollue. Enfin, la plupart des kiteurs, je pense qu'il y a 1% des kiteurs qui ont 0,1% des kiteurs qui a sa maison face au spot, qui grille dans son jardin, qui saute sur la plage et qui va kiter. Si tu vas aller kiter, tu prends ta voiture. Quand tu prends ta voiture, tu commences par polluer déjà. Et tu fais, malheureusement, tu fais un spot. C'est un sport individuel. Moi, la plupart des kiteurs que je vois, ils passent pas à récupérer, faire le petit train, récupérer tous les copains. Ça existe, hein, pour des longs trajets. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens, je sais, qui s'organisent. C'est super, qui prennent des minibus ou qui vont charger une voiture à quatre. Mais quand tu habites à 10, 15, 20 minutes du spot, comme nous ici, tu pars tout seul, en solo, tu prends ta voiture, et tu fais un premier spot. Ah, bah, tiens, le vent, il est pas bon ici, il est off ou il est side off ou c'est pas bien. Boum, tu vas au deuxième spot. Voilà. Donc, c'est tout pollue, malheureusement. Mais il faut vraiment qu'on travaille à réduire l'impact carbone. Et nous, on y travaille, en tout cas, on commence à y travailler fortement en interne.
Alors, du coup, dans l'évolution de ton réseau de distribution, moi, j'ai un très bon souvenir d'avoir découvert la marque avec Morgane UCPA de Dara.
Ah, ouais. Morgane et Hicham. Ouais.
Bien sûr. Et donc, ça, c'est le premier moment où j'ai découvert cette nouvelle marque. Comment tu fais grandir ton réseau? Toi, tu commences de from scratch. Alors évidemment, tu commences avec le réseau que tu avais déjà chez Best. Comment mm-hmm. t'as fait évoluer ce réseau?
Alors, c'est ça. Tu commences. Nous, c'est pour ça que ça a marché, parce qu'on avait ce réseau à la base. Donc, on a rien inventé. On a pas vraiment de prétention. On avait le réseau. Il a juste fallu qu'on gagne leur confiance sur une nouvelle marque. Voilà. Ce qui aurait été dur, c'est d'aller démarcher et se faire connaître. Sincèrement, naturellement, on a réussi comme à pénétrer une certaine part du marché dès le départ. Donc, on avait assez, si tu veux, de visibilité pour être déjà un peu international dès le départ, parce qu'on avait récupéré, parce qu'on avait du réseau. Et donc, du coup, c'est simplement le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Tu vois, des gens comme toi qui vont sur un spot à Darla, ou qui vont en Grèce, ou qui vont au Cap-Vert, et qui disent, ah, ben, tiens, c'est marrant, une nouvelle marque. Et puis, qui l'essaie, qui disent, ben, tiens, je suis conquis. Et tu retournes en France, et tu envoies aussi en France. Et en fait, aujourd'hui, du Elevate, comme la plupart des grosses marques, encore une fois, des majors, tu les vois un peu éparpillés sur tous les spots du monde. Et ça donne aussi, bien sûr, de la confiance, parce que en tant que consommateur, quand tu vois beaucoup de produits dans tous les industries, dans tous les secteurs confondus, tu te dis, c'est forcément quelque chose de solide, c'est forcément une marque qui a l'air insolide, mais parce que t'en vois partout. Voilà.
Et alors, en termes de test, peut-être pour reprendre aussi sur les prototypes, les premiers qu'on fait Pete, Peter, il les teste lui-même, ou est-ce qu'il y a un réseau de, bon, je vais me permettre le mot, mais un réseau de professionnels, donc de kiteurs, qui peut-être seront adaptés pour envoyer le kite loop qu'il faut, et le niveau de figure, peut-être, je me rends pas compte du niveau de Peter, mais que non pas ceux qui sont en interne en train de tester des kites. Est-ce que ça fait partie du cycle aussi de tests?
Bien sûr. Peter, il peut pas tout faire. Alors, évidemment, les premiers protos, il faut qu'il les vole, parce qu'on peut pas. C'est toujours lui qui va mettre la main sur son propre développement. Et dès qu'il se rend compte que le kite est très sain, qu'il vole bien, Peter, c'est pareil, hein, il a 23 ans d'expertise. Donc, dès qu'il prend un kite, qu'il le décolle, il sent tout de suite ce qui se passe. Et évidemment, après, on a tout un réseau, tu peux t'en douter, de riders, d'ambassadeurs, de professionnels à nous, hein, enfin, qui ride pour la marque. Et évidemment, on tout de suite, on leur passe les ailes, ils les essayent, on leur demande leur retour, mais aussi sur des choses un peu plus techniques et mécaniques, sur des largueurs, des nouvelles générations de largueurs. On pré-produire des prototypes à l'avance, les monter sur les barres, des prototypes, les faire essayer. Tu vois, ce dernier largueur, tu as la chance de me voir, et cette dernière version de largueur là qu'on a faite, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on la teste, qu'on la modifie, ce qu'on appelle fine-tuning en anglais, pour la sortir, et on teste tout ça en interne, évidemment. On répartit le matériel en fonction des riders qui vont toucher. Donc, pour donner un exemple, on a Arthur ici, Arthur Gilbert, qui est sur le tour, qui cartonne tout en ce moment. Les ailes freestyle et les ailes big air, c'est lui le premier à les avoir tous les ans et à les essayer et à les tester. Pareil, Peter, il est au Portugal, ils sont à Guincho, un gros spot de vagues. Peter il a des riders là-bas, ils ont des riders locaux qui sont très très bons aussi. Et les ailes de vagues, c'est là-bas que le développement va plus se passer, parce qu'ils ont. Ils ont tous un gros niveau et l'habitude de rider dans les vagues avec ces ailes-là. Et surtout d'une génération à l'autre. Ça nous permet d'améliorer toujours les produits petit à petit.
Alors, je pose une question de non-initié parce que je suis plutôt en twintip, mais ouais. Est-ce que l'aile de vague, c'est la même que tu vas utiliser en strapless? Alors, parce que par définition, elle est en strapless dans les vagues, mais est-ce que c'est celle que tu t'en sers ailleurs ou c'est... Quand on distingue aile de vague, c'est bien aile de
Non, pas
strapless?
forcément. Non, justement, il y a une petite ambiguïté là-dessus. C'est que nous, ce qu'on appelle une aile de vague, c'est une aile de vague. C'est vraiment pour faire de la vague, c'est-à-dire c'est une aile qui va surtout drifter, descendre au vent, perdre de sa puissance quand tu vas faire des turns pour éviter de t'arracher, de te sortir. Donc c'est une aile qui doit rester quand même assez douce, très réactive et surtout qui te suit dans la vague, qui descend au vent. Aujourd'hui, quand tu fais du freestyle strapless, souvent maintenant d'ailleurs encore plus avec des surf noseless, hein, presque que ça d'ailleurs, tu veux faire des tricks et tu veux rester en l'air longtemps, tu veux du hang time, tu veux être sustenté et c'est plutôt pour le coup des ailes freeride qu'il faut. Donc nous le marché sur les clients qui font plus du freestyle strapless c'est vraiment l'ARS. Par contre pour les kiteurs qui font de la vague c'est uniquement exclusivement de la WS.
Ok, bah, ça permet de clarifier, c'est un point qui n'était
Ouais.
pas très clair de mon côté.
C'est pas une généralité ce que je dis. C'est pardon, ce que je dis, c'est une généralité, mais il y a toujours des kiteurs qui, bien sûr, qui vont prendre des WS pour faire du freestyle strapless et de la vague, ou l'inverse, qui vont prendre des RS pour faire de la vague aussi, parce que la RS au final, c'est une aile delta 3 lattes qui marche très bien en vague, évidemment, qui est un peu moins performante pour certains petits points spécifiques que tu pourrais avoir en vague avec une WS. Mais voilà, c'est nous en tout cas, moi c'est le sur les ventes et sur le retour et sur tous nos riders, c'est vraiment le feedback que j'ai et c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce qu'on peut déjà pour les non-initiés refaire une passe sur les formats d'ailes parce que moi à l'époque j'ai acheté ma première Neige, c'était un vrai vrai C quoi, il y avait vraiment
Ouais.
pas d'autre option quoi.
Bah
Et
alors, on a
depuis.
toujours les ailes en C qui existent. Mais alors, ouais, c'est toujours pas à l'époque, tu avais les C direct et les C suspendés en SLE, suspended leading edge, ça s'appelle. Aujourd'hui, les ailes en C direct, c'est-à-dire avec une connexion directe, ça n'existe presque plus. Nous, chez nous, on n'en a pas. Diotone en fait encore, en font encore. Je crois que c'est la Vegas, hein, il me semble. Mais ce sont des ventes absolument marginales pour nous. Enfin, pour nous, les marques de kite. Nous, on continue d'avoir des ailes en profil C en 5 lattes. Donc, nous, c'est la FS, mais elle a un bridage, cette aile. Après, donc, on a les ailes type plutôt freeride, donc ce qu'on appelle les ailes Delta, pour t'en citer, je sais pas moi, les Bandits, la RS chez nous, enfin toutes ces voiles-là que vous connaissez. Après, on a les ailes aujourd'hui donc Big Air que je vais classifier dans les Big Air, qui sont des voiles légèrement plus plates, avec un ratio légèrement plus élevé et en général à 5 lattes, qui permettent d'avoir beaucoup plus donc de hang time, de planer beaucoup plus. La WS, je vais la catégoriser et la classifier dans des ailes freeride, freeride 3 lattes, donc ça on n'en parle pas, elle va dans le clan des RS. Et après effectivement, on a les ailes de Lightwind qui sont des ailes ou complètement strutless, sans boudin ou avec un boudin pour bien sûr gagner en poids mais qui restent quand même des ailes avec un design et un ratio plutôt typé freeride. Voilà. Mais elles ont moins de lattes. C'est là-dedans que je classifierais la plupart des ailes de kite. Donc on a trois grandes catégories de kite. On a les kites freestyle, plutôt C, les kites plutôt freeride, 3 lattes, et les kites big air un peu plus plat, 5 lattes.
Ok. Et alors, une question qui est toujours effectivement celle qui revient, quand on commence à parler de surface, en particulier les non-initiés, jusqu'où on descend et jusqu'où on monte? Parce que je sais qu'à l'époque, les plages de vent étaient assez serrées. Plus on développe les kites et plus les plages de vent s'étendent. Et donc, on peut aller de très peu de vent à beaucoup de vent et toujours avec la même aile. Aujourd'hui, c'est vous, c'est jusqu'à quand en termes de surface? Enfin, vous descendez jusqu'à quelle surface en petit et jusqu'à quoi en grande
Nous, on
surface?
descend, ça dépend des modèles parce que c'est pareil, si tu mélanges tous les modèles confondus, on descend, on va de 4 à 17, mais en freestyle, par exemple, on s'arrête, on descend à 6, il n'y a pas tellement besoin d'avoir plus et on monte jusqu'à 14 aujourd'hui. C'est des ailes en freestyle où tu as besoin de moins de taille que, par exemple, sur des ailes de vague, tu es sur un surf. Il te faut une 5, clairement, parce que quand tu as 35 nœuds, si tu avais une 6 ou une 7 en plus petit, tu serais complètement à la rue, tu la tiendrais pas. Parce qu'en surf, tu as plus de flottabilité, tu demandes moins de traction, c'est la vague qui va t'aider à te déplacer, à te pousser. Voilà. En OS, pareil, en OS, on a moins de taille, on saute tous les mètres carrés, on fait tous les 2 mètres carrés. Les RS qui sont notre kite absolument grand public, c'est que 70% de notre vente, c'est des kites qui cartonnent. Là, on s'oblige à avoir un kite tous les mètres carrés, quasiment. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du kite, de la pratique et de ce dont pourquoi il va être fait en termes de pratique.
Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on faisait des chiffres ronds. Est-ce que c'était parce que c'était plus facile à écrire sur une aile que 10, 11, 12 plutôt que de dire là, c'est. Tu vois, en planche à voile, tant qu'on a fait un peu.
Ouais, bien sûr, t'avais des 4-2, des 4-7, des trucs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'en kite, t'as besoin d'un kite presque tous les mètres carrés, ça sert à rien d'aller. On a eu des années où on a décliné. Enfin, mais après, en fait, le problème, c'est que logistiquement, tu t'en sors pas parce que, c'est surtout aussi après une question de preuve. Enfin, déjà, il n'y a pas d'intérêt, d'avoir une 5. Quand t'as une 5, une 6, une 7, il n'y a plus besoin d'avoir une 5 et demi, une 6 et demi au milieu. Enfin, c'est de la folie. Et puis après, tu t'y perds. À la limite, enfin, je veux dire, tu mets un coup de trim, tu perds un peu de puissance. C'est comme si tu passais d'une 6 à une 5, enfin, d'une 6 à une 5 et demi avec un peu plus de trim. Donc, il n'y a pas forcément cette nécessité d'avoir un kite tous les 2 mètres carrés.
C'est vrai que le trim joue beaucoup. Je m'en rends pas compte si tu peux trimer, comme j'ai pas fait assez.
Enfin, là, nous, aujourd'hui, t'imagines, on a 40 kites au total, hein. 40 kites. C'est-à-dire, dans les modèles et dans les tailles. Si tu rajoutes les couleurs, on en a 100. Ou 90. Je parle de codes produits différents. Si on rajoutait des 2 mètres carrés, on en aurait 180. Enfin, tu vois le délire en termes de production, de forecasting, d'organisation, ce serait ingérable. Et puis les clients, ils auraient jamais ce qu'ils voudraient parce qu'un jour, ils voudraient une 5,5 en couleur rouge alors qu'on a que des 6 en couleur vert. Enfin, bon, bref, tu m'as compris. C'est très compliqué.
Est-ce que le choix des couleurs, il est difficile ou pas? Je me rends pas compte, effectivement, est-ce que les couleurs changent d'une année à l'autre ou est-ce qu'il y a quand même globalement l'état d'esprit de la marque, c'est telle couleur?
Oh, je pense que déjà, tu as l'état d'esprit de la marque. Nous, on reste dans les couleurs assez sobres. Tu as des marques qui sont dans des couleurs un peu plus pétantes en fonction de ce qui... Ce sont des choix personnels. Nous, on essaie de suivre pas mal la mode, entre guillemets, hein, les Pantone, les couleurs de mode de chaque année. Nous, on a décidé de rester sur des couleurs qui sont plus sobres. Donc, c'est une décision qu'on prend en interne. C'est pas particulièrement compliqué. Ce qui est plus compliqué, on a des couleurs qui se reportent d'une année sur l'autre, ça c'est sûr. On a toujours une ou deux couleurs qui restent au catalogue, mais qui est remixée avec des nouvelles couleurs de l'année d'après. Ce qui est le plus dur, c'est d'assembler les bonnes couleurs ensemble. Parce que t'as toujours 2 ou 3 couleurs sur un kite. Et c'est d'éviter d'avoir, quand t'assembles des différentes couleurs, que t'aies des ailes qui soient moches, quoi, simplement. Quoi.
Je me rends pas compte, c'est quoi, un designer chez vous?
C'est ça, bien sûr. On a un directeur artistique rattaché au département marketing, un grand copain qui bosse depuis aussi les débuts avec nous, qui s'appelle Samuel, qui fait un travail incroyable, qui a beaucoup d'expérience là-dedans et qui est une grande part aussi du succès des kites et de l'appréciation des clients. Il est à plein temps sur le design, complètement plein temps sur le design graph. Il y a 2 grands types de design. Il y a le design 3D sur les logiciels de développement qui sont là pour faire voler un kite en 3D. C'est le travail de Peter, ce qu'on appelle le panotage, l'assemblage des panneaux, les performances, les coutures. Puis après, t'as le travail graphique, le travail 2D, c'est-à-dire l'impression, le design que tu vas mettre, le choix des couleurs, le design que tu vas mettre, que tu vas imprimer sur tous les produits confondus. Tout comme sur les Twin Tip, on a Franz Schietshofer, qui est aussi super connu dans ce milieu-là, qui nous développe, avec qui on travaille, hein, qui bosse avec nous, qui développe tous les boards. Lui, il s'occupe de tester uniquement et de développer la planche, donc la planche en elle-même, comment elle va être sous tes pieds, s'il y avoir du pop, du flex, tout ça, le 3D de la planche, évidemment, mais lui, en aucun cas, il s'occupe de dire, là, je vais mettre du rouge, là, je vais mettre 3 bandes vertes, c'est pas du tout son boulot, pas du tout, du tout, du tout.
Du coup, vous développez, j'imagine, toute une gamme de boards dont tu as parlé, effectivement. Est-ce que celle-là s'ajoute maintenant le foil? Est-ce que vous développez aussi des foils chez vous?
On développe des foils, comme tous les autres grosses marques, comme tous les autres majors. C'est obligatoire déjà, un, parce qu'on aime ça, parce que ça fait partie du milieu, parce que nos clients en veulent, nous en réclament, et parce que c'est naturel pour nous de faire, oui, bien sûr, des foils, des wings, de suivre la tendance aussi. On est tous des grands passionnés, on est tous des pratiquants. Donc ça nous fait plaisir de développer, d'essayer de comprendre et d'accompagner le sport le plus possible.
Où est-ce que tu veux emmener la société? Si, tu vois, si je devais conclure tout ce passage où on parle d'Elevate, où est-ce que tu veux l'emmener?
Où est-ce que je veux emmener la société? Sincèrement, on n'a aucun souhait de l'emmener. Je vais te dire, nous, l'idée de base quand on a créé Elevate déjà, c'était qu'Elevate soit à nous et pour nous depuis le début et qu'on réussisse au minima à vivre de notre passion et de la faire partager. Et aujourd'hui, Elevate, c'est l'une des dernières grosses marques major qui est détenue par pas par des investisseurs ou des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement. On est vraiment Elevate est à nous, c'est notre marque et on veut que ce soit comme ça et qu'on veut prendre nos propres décisions pour le plus longtemps possible. Et on n'a pas vraiment l'idée ou l'envie de l'amener à un certain point pour faire quelque chose avec. On est tous super contents du lifestyle qu'on a, on est tous super contents et fiers de ce qu'on a pu créer aujourd'hui et on veut profiter, continuer de vivre comme ça le plus longtemps possible. On n'a qu'une hâte, c'est que toutes les interdictions et les barrières soient levées dues au Covid et qu'on puisse reprendre notre vie d'avant, voyager, retrouver nos différents clients. Parce que c'est vrai qu'on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les clients, les représentants commerciaux, qu'on n'a pas vu nos fournisseurs aussi. Les fournisseurs, c'est génial de voyager, d'aller les voir, d'être dans les usines, de passer du temps avec eux. Ça fait pareil un an et demi qu'on n'a pas pu le faire. Clairement, ça met plus de temps, plus d'inertie aussi, parce que maintenant, quand on développe des nouveaux produits, des nouveaux projets, du fait qu'on peut pas se rendre là-bas, ben ça met plus de temps à développer des gammes. Donc on a vraiment hâte que tout ça se termine, ce cauchemar, et qu'on reparte comme avant. Mais on veut être heureux dans ce qu'on fait. Aujourd'hui c'est le cas, et le jour où je pense on se dira on est plus content, il y a un problème, on en rediscutera. Mais je pense que c'est pas demain la veille.
Bon, bah, génial. En termes d'orga, du coup tu disais avec le Covid vous êtes tous en télétravail, donc vous êtes tous dispatchés en France. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas?
On n'est pas dispatché en France, on est même dispatché plus que ça, on est bien plus dispatché que ça parce qu'on est quand même pas mal de personnes à travailler. Donc du coup, on est dispatché un peu partout, hein. C'est marrant. Il y a une équipe en Allemagne, une équipe en France, une équipe en Portugal. Voilà, ça c'est les gros points névralgiques et stratégiques de chez Elevate. Et oui, on restera comme ça. Le télétravail en soi, quand t'as des gens qui sont sérieux et qui font l'affaire, je ne vois aucune raison de ne pas continuer comme ça. Et nous, ça a fait ses preuves, ça fait 5 ans que ça marche comme ça. Et je pense que tout le monde est vraiment content du résultat.
Tu regrettes pas, du coup, finalement, de pas avoir poussé le modèle champion de kite plus loin?
Non, pas du tout. Absolument pas du tout. Le temps aura fini par me donner raison. je pense que j'aurais été content dans l'autre sens aussi, et si ça avait pu se faire, hein, là-dessus j'en suis convaincu. Je pense aussi rebondi sur quelque chose d'autre, forcément à un moment donné, peut-être différemment. Mais non, aujourd'hui je suis content et heureux de ce qu'on a fait et de notre mode de vie à tous dans la boîte.
Écoute, merci d'avoir pris ce temps. Avant de terminer, j'ai 3 questions en général que je pose effectivement à mes invités. La première, c'est si tu devais conseiller à quelqu'un de se lancer un peu dans ce format d'entrepreneuriat. Bon, c'est peut-être un peu particulier dans ce cas-là parce que ça demanderait de conseiller pour un potentiel concurrent, mais non, c'est quoi les étapes selon toi à conseiller?
Les 3 étapes à conseiller?
Les étapes, pas forcément 3, mais le process.
Le process pour lancer une marque de kite? C'est ça que tu veux dire, entre guillemets, si quelqu'un, si c'est intéressé quelqu'un. Ouais, bien sûr. Ouais, donc j'ai pas de secret là-dessus, ou je suis pas du tout inquiet. Être passionné, être vraiment passionné, ne pas s'attendre à ne pas avoir d'espérance, ne pas se dire je veux être là, c'est-à-dire laisser la chose se faire petit à petit. Ça c'est le deuxième conseil, et le troisième conseil, d'y aller à fond. Voilà, de le faire parce que si j'y avais pas cru il y a quelques années, qui tente rien n'a rien en fait, et tu sauras jamais si tu tentes pas, tu sauras jamais si ça aurait pu marcher ou pas. Et en l'occurrence, si tu tentes, t'as rien à regretter parce que tu dis j'ai essayé, ça a pas marché, tant pis. Mais tu resteras jamais avec ce doute de est-ce que j'aurais dû ou est-ce que j'aurais pu le faire. Je t'avouerai, je me suis posé la question, hein, quand on a lancé l'Elevate au début, quand j'en ai parlé à mon premier associé, qu'on m'a dit, qu'il est venu vers moi et qu'il m'a dit ce serait bien, on fasse ça. me suis dit, waouh, j'ai vu l'entreprise assez compliquée en elle-même. Et j'ai fortement douté, hein, des semaines et des semaines et des semaines. On a préparé le plan ensemble, sur le papier, en détail. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de doute, comme tout le monde. Je me suis dit, attends, il faudrait peut-être que tu repasses sur un travail de salarié, avec ton petit, tu vois, avec ton petit confort quotidien, parce que là, c'est trop compliqué ce qui est en train de se tramer à l'avenir. Ça va être beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Voilà, tout ce que les chefs d'entreprise peuvent connaître, hein, de toutes les façons. Et puis, tu vois, au final, on l'a fait. On s'est lancé tête baissée, ce que je te disais tout à l'heure, à fond, passionné. Et puis, ben, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que on l'a fait, ça a marché et j'ai plus aucun doute là-dessus. Et je sais que si je l'avais pas fait à l'époque, si je m'étais arrêté au dernier moment, si j'avais fait demi-tour, je me serais dit, est-ce que ça aurait pu le faire? Est-ce qu'on aurait pu monter une marque de kite? Et j'aurais toujours eu ce doute. Et je pense que ça m'aurait un petit peu rongé au fond de moi tout le temps.
J'ai une amie qui m'avait proposé un jour de faire une aile rétractable. Tu puisses emmener un truc avec, tu zippes des panneaux dessus. Ouais. Imaginez tout un concept. Je sais pas si ça fait partie des choses que vous aviez imaginé vous aussi, mais
ça a eu été fait dans les, si je te dis pas de bêtises, peut-être 2003-2004, dans ces années-là, 2003-2004, peut-être 2005, c'est trop long pour que je m'en souvienne. RRD a fait une aile, je m'en souviens très bien, avec un zip, une fermeture éclair, tout le long de chacun des struts, donc des boudins, et que quand tu dézippais de haut vers le bas, ça te permettait de gagner quelques centimètres de large sur chaque strut. Et ça te permettait de gagner un petit peu plus de puissance et de mètres carrés. Donc, ça a été fait, mais le concept n'a pas forcément marché. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ah, c'était marrant. Ça m'avait fait rire, ouais, à l'époque.
Ouais.
Deuxième question, c'est comment on fait pour te suivre? Ou en tout cas, au moins la marque, où est-ce que vous êtes présent sur les réseaux, des vidéos?
Ouais, sur les réseaux, comme toutes les marques de kite, on a un Facebook et un Insta bien actifs, donc Elevate Kites. Elevate Kites, c'est ça le. Et le site web, bien sûr, www.elevatekites.com. Voilà. Et pour les gens qui n'auraient pas forcément fait le rapprochement, je vais peut-être finaliser avec ça, je sais pas, tu me diras. Mais alors, Elevate, il y a un jeu de mots dans le nom de la marque, ça s'écrit E-I-G-H-T. Et je pense que tu as dû te rendre compte que notre sigle, qui est le sigle de l'infini, c'est un signe 8, donc 8. La base du mot au début, Elevate, on a voulu l'écrire en se finissant par A-T-E, s'élever, quand même à la base, le kite fait pour sauter, c'est l'essence pure, c'est la base même du kite, s'élever. Donc on avait commencé par Elevate, et puis notre directeur artistique a eu une idée de génie, d'un coup s'il m'attend pour qu'on ferait pas un jeu de mots qui ferait correspondre, matcher en fait le nom de la marque avec le logo. Et c'est un peu le cas, Elevate, E-I-G-H-T, avec le logo du 8. Donc tout ça en fait a un sens aussi sur la marque.
Bah c'est canon.
Voilà, c'est, je sais canon. Pas si tu t'en étais rendu compte, si je viens de te l'apprendre.
Tout à fait rendu compte.
Toi, tu le savais, voilà,
moi,
c'est
je
ça.
Savais, ouais.
Voilà, donc elevatekite.com, le site internet. D'ailleurs, on est transparent sur tout ce qu'on fait là-dessus. Il y a l'équipe, les gens qui travaillent pour la boîte, tous les produits. On insiste aussi sur le détail, hein. Il y a plein de petits sous-onglets où tu peux voir absolument toutes les constructions de chacun des produits, des vidéos produits. Après, bien sûr, sur les réseaux sociaux, bah, elevatekite, tout simplement.
Canon. Dernière question du coup pour toi, Philippe. Si tu avais l'occasion de rediscuter avec Philippe à l'époque, qui a effectivement failli faire ce choix, tu sais, le fameux entre DUT et ouais, licence, ouais, il fallait tout larguer pour aller faire du kite à fond, qu'est-ce que tu ouais, lui dis?
Je lui dirais, qu'est-ce que je lui dirais? Écoute ton cœur ou écoute ta tête? Malheureusement, je ne saurais pas quoi lui dire. Si je lui disais d'écouter sa tête, je lui dirais de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et si je lui disais d'écouter son cœur, je lui dirais de faire que du kite. C'est comme tout, je dirais, essayer de trouver le juste milieu, la juste balance et essayer de faire au mieux les deux. Et au final, je pense que c'est un petit peu aussi ce que j'ai un petit peu fait en essayant de faire le plus possible, de profiter le plus possible, de faire du kite à fond, tout en continuant mes études pour justement pouvoir travailler là-dedans. C'est ce que je dirais, essayer de faire, juste simplement, fais du mieux que tu peux, et c'est tout. Et je pense que je dirais à tout le monde pareil, de faire du mieux que vous pouvez. Tout simplement.
Merci Philippe pour ce temps, c'était vraiment canon d'avoir l'occasion d'échanger avec toi.
Pareil Pierre-Arnaud, merci pour tout, merci pour ton temps et voilà, au plaisir de te croiser sur un spot, un de ces quatre, ce serait génial. N'hésite pas à venir me voir si tu me vois sur
avec
le spot.
Avec grand plaisir.
Voilà. Et puis je souhaite à tous nos, comment on appelle ça, nos auditeurs, c'est ça?
Auditeurs.
Voilà, de kiter à fond, de profiter des prochains mois et des prochaines années. Je pense que après tout ce qu'on a vécu, on a tous pris conscience que voilà que c'était le sport, de se réunir entre copains à la plage, de faire des sports individuels en harmonie avec la nature. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. On l'a tous vu. Et je souhaite du courage à tout le monde pour ces voilà pour ces prochains mois, prochaines années. Et voilà, profitez à fond, faites du kite, faites de la wing, faites de tout et pas se prendre la tête.
Merci Philippe, à bientôt.
Merci Pierre-Arnaud, à bientôt à toi. Ciao, ciao. Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.